Cette semaine, dans cette entrevue avec Patricia Filiatro, j'aborde avec elle l'importance du SEO. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on veut que nos contenus, que notre site web soit trouvé parmi tous les utilisateurs et utilisatrices qui recherchent ce genre de contenu. Autrement dit, pourquoi créer du contenu si personne ne va pouvoir le consommer? Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec Patricia. Bonne écoute! « 180 degrés », c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Snaps Marketing. « 180 degrés » est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle entrevue de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patricia Filiatro, une experte dans le domaine des communications et du marketing depuis plus de 15 ans. Et depuis 2014, elle s'est spécialisée dans le marketing numérique et partage également son expertise en tant qu'enseignante à l'UQAM. À la barre de ses deux entreprises, PF Communication et Maman en affaires, elle forme et guide les entrepreneurs à créer leur site web et à bien le référencer grâce au SEO. J'ai eu envie d'inviter Patricia pour aborder la fameuse question du SEO pour bien comprendre quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire pour aider son site web à sortir du lot. Donc, officiellement, bonjour Patricia!
Allô, allô, ça va?
Oui, ça va super bien, et toi?
Oui, absolument. J'ai un petit... Mon ordinateur fait des free games, mais ça va. Oui, mais là, ça va.
C'est bon.
C'est bon.
Bien, merci d'avoir accepté mon invitation, Patricia.
Ça fait plaisir.
C'est un sujet, le SEO, que j'ai jamais encore abordé sur le podcast, et pourtant, c'est tellement important comme élément à prendre en compte, puis... De plus en plus, on va en parler, mais de plus en plus aussi, on voit l'importance que ça a, pas juste pour son site web, mais pour ses réseaux sociaux.
Oui, absolument. On l'entend de plus en plus dans les dernières années, l'importance, autant pour notre site que pour les réseaux sociaux, d'avoir un référencement naturel qui est travaillé, en fait, qui réfléchit, où on a vraiment pris le temps d'analyser les mots-clés, qu'on a vraiment pris le temps de voir c'est quoi les intentions de recherche des gens. Donc oui, vraiment, c'est de plus en plus important. Ouais.
Cool. Puis avant qu'on parle vraiment de SEO concrètement, j'ai quand même le goût que tu prennes le temps de te présenter puis de, en fait, parler de ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu jases de SEO, de création de site web?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a mené là?
Bien, comme tu l'as dit, moi, je viens déjà du milieu des communications, mais plus relations publiques, donc traditionnelles, qu'on pourrait dire.
Ouais.
J'ai un bac en communication, relations publiques, mais rapidement, dans mes premiers emplois, j'ai touché au web, puis évidemment, aux réseaux sociaux, tu sais, j'ai commencé à travailler en 2008, fait que Facebook, ça faisait un an que ça existait. Bon, je l'avais pour moi, mais ça faisait plus qu'un an que ça existait, mais tu sais que c'était vraiment démocratisé, que les gens l'utilisaient. Oui. Et j'avais commencé à avoir une page Facebook pour mon employeur et tout ça. Fait que tu sais, on commençait, là, ça commençait, c'était les balbutiements. Et la création de site web est arrivée par hasard, en fait, c'est parce que j'ai voulu créer le site web de mon père pour que son entreprise puisse survivre parce qu'il n'y avait pas de site, puis vraiment, il n'y avait plus d'appel. Le téléphone ne sonnait plus et il est ramoneur de cheminée, donc c'est très saisonnier. Il faut que c'est des moments dans l'année, si le téléphone ne sonne pas, après, tu es 6 mois de temps à te tourner les pouces, puis ça ne va pas super bien. Donc, j'ai pris sur moi de créer un site, puis je suis tombée complètement en amour avec la création de site web, vraiment. J'ai tout de suite essayé ça sur WordPress, puis j'ai adoré la plateforme, et c'est devenu un peu un passe-temps qui s'est transformé en job, en agence, en fait. Donc, PF Communication, c'est comme ça un peu que c'est parti. Et après, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires, donc j'ai arrêté de travailler à temps plein pour un employeur externe, et parallèlement, je me suis dit, je vais faire des petits contrats, de tout, là. Tu sais, quand on commence, là, tu sais, je peux faire de la rédaction, je peux faire des relations de presse, tu sais, je suis capable d'aller... J'haïssais tellement ça.
Je peux tout te faire.
Mais c'est ça, tu sais, je sais comment sortir une liste de presse sur DataBlitz, là, mais tu sais, mettons que c'était pas ma tasse de thé, là. Je suis pas une Kim au clair, pas en tout, là. mais, tu sais, je touchais un peu à tout et créer des petites vitrines ou essayer de déboguer des affaires sur un site WordPress, tu sais, juste d'aller dans Google puis essayer de comprendre c'est quoi... d'essayer d'aller sur des forums, de trouver des réponses et tout. Fait que ça a commencé comme ça et ça a comme pas arrêté de grossir. Puis une fois que ma maîtrise était finie, je me disais, ah, est-ce que tu sais, je vais-tu me chercher une job? Qu'est-ce que je fais? Et quand j'ai regardé ce que j'avais réussi à accumuler comme salaire pendant ma première année, c'était quand même intéressant. J'étais comme, ah, je pourrais continuer à vivre 2-3 ans comme ça puis je serais pas en difficulté. Là. Ça irait bien. Donc, j'ai continué puis après, ben ça a juste... augmenter. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais.
Oh, c'est le fun. Fait que ton père, est-tu toujours le même site web?
Oui, absolument, absolument. Ouais, c'est encore le même site depuis 10 ans.
Puis, ça va bien.
Ça va bien, ben oui, ça marche encore. Puis justement, c'est là que je me suis intéressée au SEO, parce qu'une fois que le site était fait... Ben, le téléphone sonnait pas plus, là. C'est pas parce que t'as un site qui est en ligne que les clients vont se garrocher, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai compris l'importance du SEO. Puis, en fait, j'ai compris que le site, c'était la première étape. C'était pas la finalité. Tu sais, qu'après, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Et que si tu voulais que ça fonctionne, fallait mettre des efforts. Donc là, je me suis même formée sur le SEO. J'ai eu un coach à un moment donné que j'avais trouvé sur Internet. Tu sais, fait que... Et j'ai vu... l'impact en quelques mois seulement sur le site à mon père et surtout un impact qui perdurait dans le temps, qui restait, que j'avais plus besoin de rien faire. Tu sais, je retournais comme vérifier les statistiques à chaque mois, le positionnement sur Google, puis je dis, ben, crime, je fais rien, je touche pas au site ou à peine, je mettais à jour et tout ça, mais tu sais, je faisais pas des gros efforts, puis il continuait à être en première page de Google. Donc là, je me disais, ben, crime, il y a quelque chose là, c'est une stratégie qui est vraiment long terme, tu sais. Donc,
Puis, tu sais, une des raisons pourquoi j'avais le goût, justement, d'aborder la question du SEO avec une experte comme toi, c'est que j'entends tellement des choses, des fois, de des clients qui comprennent mal ce que c'est le SEO, puis ils sont comme, oh oui, il faut mettre des mots-clés. Puis là, la conception qu'ils ont, c'est comme, je garoche plein de mots-clés dans mon texte, dans mes textes, en fait, de site web. Puis c'est de même, ça va marcher.
Ben, c'est la base, les mots-clés, mais c'est juste la base. Après, il y a beaucoup d'autres choses.
Mais tu sais, lesquels mots-clés? Ben, c'est ça. Fois, même ça, c'est pas
exactement.
Clair.
Puis tu sais, on peut pas, on appelait ça du keyword stuffing, là. Ça se fait plus du tout, mais tu sais, avant, c'était, tu pouvais arriver sur un site, puis il y avait plein de mots, tu sais, avec des virgules. Fait que c'était complètement... c'est illisible, en fait, c'était pas du tout... c'était pas bon pour le user experience, puis c'était pas bon pour Google non plus. Il y avait même, tu sais, des mauvaises pratiques à l'époque. Je faisais pas encore de SEO à ce moment-là, parce que ça fait quand même longtemps, mais les gens écrivaient en blanc sur fond blanc. Donc,
oui, caché.
C'est ça. Fait que l'utilisateur le voyait pas, mais Google pouvait l'indexer. Mais ça, évidemment, aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler du black hat SEO. C'est complètement... Il faut vraiment le faire dans les bonnes... dans les règles de l'art, là, tu sais. Mais oui, ça commence avec une recherche de mots-clés, mais c'est pas aussi simple qu'on le pense. Tu sais, des fois, tu te dis, ben, OK, mes mots-clés, c'est ça. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça que les gens cherchent?
Voilà,
tu sais, toi, t'as tes mots-clés dans ton industrie, tu sais que telle affaire, ça s'appelle comme ça, mais est-ce que le public, au bout de la ligne, est-ce que c'est ça qu'il cherche quand il va dans Google, ou il cherche il tape une question... pour un peu contourner le sujet principal parce qu'il connaît pas le vrai terme à utiliser.
Ouais.
Donc, c'est là vraiment que la recherche avec des outils performants nous permet de mettre le doigt sur les bons mots-clés. Et c'est aussi un enjeu que ce ne soit pas des mots-clés qui sont trop compétitifs. Ça, c'est une grosse erreur que les gens font.
Tu vois, moi, je m'étais posé la question à l'époque avec celle qui avait travaillé un peu de SEO sur mon site, mais tu sais, on a fait... Depuis, j'ai tout changé. Fait que faudrait que je le refasse, d'ailleurs. Mais tu vois, on s'était posé la question, est-ce que, par exemple, c'est mieux sur le site web, tu sais, les fameux titres professionnels?
Oui.
Est-ce que, dans mon cas, c'était mieux stratège, consultante? Tu sais, il y a tellement de termes.
Oui.
Puis je pense, mettons, à celles que j'ai en tête, qui sont dans le développement personnel, tu sais, dans le coaching, tu le sais comme moi, il y en a qui sont très créatives dans leur titre, tu sais. Je suis coach en développement de potentiel humain. Tu comprends? Mais ça, il n'y a personne qui cherche ça sur Google, tu sais.
Ben, c'est exactement, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais qu'il faut voir à quel endroit on va le mettre, puis ça ne sera peut-être pas dans le gros titre en haut, tu sais.
C'est ça.
Parce que après ça, ça a un autre objectif, ça a comme pour objectif de te démarquer ou d'attirer l'attention, mais pas d'être trouvé sur Google, ça c'est ça.
Oui, puis là, tu as déjà commencé à aborder la question de trouver c'est quoi les bons mots-clés. Concrètement, là, on fait ça sur quelle plateforme? Je sais qu'il y a des plateformes payantes, je sais qu'il y a d'autres sortes gratuites. Pour l'entrepreneur qui commence à s'intéresser au SEO, tu suggérerais quelle plateforme?
Bien, je vais te poser une question qui va être la réponse. Okay. C'est sur où tu vas, toi, quand tu cherches quelque chose sur Internet? Tu sais quoi que tu ouvres?
Google.
Ben c'est ça.
Ouais.
Google, c'est l'endroit où on veut se positionner, ben c'est l'endroit à ouvrir. On ouvre Google pour être en mesure de commencer à nous faire des recherches dans notre propre industrie, pour voir qu'est-ce qui sort. Il y a plein de petites pépites qui se cachent, notamment, c'est sûr que tu l'as déjà expérimenté quand tu commences à écrire dans Google, la fonction d'autocomplétion. On dirait que tu dis que donc Google, il est en train de lire dans ma tête? Oui, pas mal. pas mal ça qu'il fait. pas de manière officielle, mais disons qu'avec toute l'information qu'on a donnée à Google dans les dizaines et dizaines d'années qu'on l'utilise, ben, veut, veut pas, il comprend les intentions de recherche des gens. Donc, la fonction d'autocomplétion est super riche parce que ça va nous indiquer qu'est-ce que les gens cherchent. Des fois, c'est des drôles d'affaires. Hein? Des fois, tu vois des autres,
c'est ça
que
j'allais dire. Des fois, c'est weird.
Des fois, c'est weird. Évidemment, ce qui est weird, on laisse ça de côté. J'avais fait un genre de défi SEO avec Alexandra Martel, puis on avait trouvé des affaires, je m'en souviens plus, mais on avait trouvé des affaires tellement drôles dans sa Google Search Console, qui est aussi un autre outil de Google dont je vais parler. Puis elle sortait là-dessus, puis on a tellement ri, tu sais. C'était anecdotique, là. C'était pas le terme sur lequel elle sortait le plus, mais tu sais, c'était quelque chose de... Je me souviens plus c'était quoi, mais ça avait aucun rapport. Fait que tu sais, c'est... Faut faire attention à ces petites choses-là, évidemment, mais de manière générale, on réussit à avoir des super belles infos. Donc, la fonction d'autocomplétion. Sinon, quand on descend un petit peu dans Google, une fois qu'on a fait notre recherche, il va y avoir les questions fréquemment posées. Donc, les questions que les autres personnes se posent en lien avec la thématique là, que tu viens de... la requête que tu viens de faire. Donc, ça aussi, ça donne beaucoup, beaucoup d'indications. Et un petit peu plus bas aussi, il y a les recherches associées. Donc, ça, c'est des choses qui nous donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Moi, ce que je suggère aussi, c'est de regarder s'il y a de la publicité payée, puis c'est quoi les mots-clés qui sont en gras. T'sais, c'est quoi les mots-clés dans le Google Ads? On le sait, hein, les premiers résultats, souvent, on voit le petit mot « annonce » à côté. Puis Google le change tout le temps. Là. Des fois, il est écrit en gris, des fois, il est écrit en... Tu sais, il change là, pour pas qu'on reconnaisse trop que c'est une pub, parce qu'eux autres, on s'entend que c'est ça leur vache à lait. C'est la pub qui fait que ça existe. Donc, voir c'est quoi que les gens cherchent aussi. En fait, ce que les autres annonceurs mettent, vos compétiteurs, finalement, peut-être parce que vous avez cherché des mots-clés dans votre industrie. Fait que c'est vraiment la première place où aller, puis d'essayer d'analyser juste qu'est-ce qu'on voit dans Google. Ensuite, ça va être de les ouvrir, ces sites-là, et d'aller analyser ce qu'on voit dans les pages de ces sites-là. Parce que on veut sortir sur Google, sur la page, la première page, évidemment, il y a 10 résultats sur une page. Donc, on va aller analyser les 10 résultats parce que l'objectif, c'est de se faufiler dans ce top 10-là. Tu sais, quand tu t'entraînes pour un marathon ou, ben, peut-être pas un marathon parce que c'est vraiment solitaire, mais si tu t'entraînes avec et tu connais tes coéquipiers, tes adversaires, tu vas aller voir, OK, un tel, il est vraiment fort dans tel truc. Je réussirai pas à le battre dans tel truc, mais il y a une faiblesse ici, puis ça, je pourrais réussir à me faufiler. Donc, ça, c'est Nicolas Roy, qui est expert aussi en SEO, qui m'avait fait cette analogie-là, qui, lui, était aussi préparateur sportif avant, fait qu'il a fait vraiment le lien entre le sport puis le SEO. Donc, et ça, c'est totalement gratuit. Tu sais, Google, on passe nos journées là-dessus, là. Fait que c'est totalement gratuit. On a de l'information. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de... Ouvrez-vous un document sur votre ordinateur, copier-coller. Ça peut être un Google Sheet où vous mettez, tu sais, sur des lignes, tous les compétiteurs, puis vous mettez des notes à côté. Le nombre de mots, par exemple. Combien qu'il y a de mots par page sur les 10 sites. C'est quoi les types de sites? C'est-tu des compétiteurs directs, indirects? Donc vraiment, là, la première page de Google est extrêmement riche en informations.
Puis j'ai envie de dire, on peut faire la même chose sur YouTube aussi, là.
Absolument, qui est un autre moteur de recherche. Absolument, ouais. C'est ça qui appartient à Google, mais qui fonctionne différemment. Mais oui, absolument, ouais.
Ah, ouais. C'est cool. Puis concrètement, parce que là, on parle de la recherche de mots-clés. Une fois qu'on sait, par exemple, OK, moi, j'ai le goût de me positionner sur tel et tel mot-clé, ouais. C'est quoi la prochaine étape? Parce que là, bon, je connais quelques actions qu'on peut faire, mais tu sais, il y en a un paquet de ce que je... En fait, à chaque année, j'apprends des nouvelles choses par rapport au SEO. Tu sais, il y a au début, quand j'ai fait mon site, là, quelqu'un m'a dit « Ah oui, là, faut que tu renommes tes images avec certains mots-clés, avec des tirets ou je sais pas trop. »
Ouais.
OK, là, après ça, il y avait des balises alt. Puis là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec, tu sais, notre site, les actions concrètes pour aider à se positionner sur ces mots-clés-là?
Oui. Bien, une fois qu'on a trouvé notre mot-clé, tu sais... Là, j'ai donné quelques astuces. Après, il faut quand même aller voir le volume de recherche. Il faut aller voir si c'est vraiment un terme qui est recherché. Il existe plusieurs outils. On peut utiliser le Google Keyword Planner qui est pour ceux qui veulent faire du Google Ads. On n'est pas obligé de lancer une campagne de Google Ads, mais on va avoir une couple de statistiques de justement c'est quoi le volume de recherche du terme en question. Sinon, moi, j'aime bien un outil qui est payant, mais qui offre une version gratuite, je pense, pour 5 recherches, c'est Mangools. M-A-N-G-O-O-L-S. Okay. Et ça nous permet donc justement de voir le volume de recherche. Si c'est un volume qui est très, très bas, bien, peut-être que ça ne vaut pas la peine de se mettre tant d'efforts. Mais si c'est un volume moyen, ça peut être intéressant. Si c'est un volume trop élevé, attention, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Une fois vraiment qu'on a statué sur notre mot-clé, bien là, on va commencer à rédiger notre pièce de contenu. Donc, est-ce que ça va être un article de blog? Est-ce que ça va être une page de notre site pour un service ou quoi que ce soit? Notre page à propos. Et on va structurer notre texte vraiment avec, un peu comme on le faisait à l'école, titre, sous-titre, sous-sous-titre, pour vraiment venir structurer nos idées. Puis moi, ce que je conseille, c'est de commencer par cette structure-là, avant de commencer à écrire. Donc, se dire, OK, mon sujet principal, c'est mon titre, ce qu'on appelle le H1. Ensuite, je vais parler de 4 sous-sujets en lien avec ce sujet-là. Donc, je vais avoir 4 H2. Puis sous ces H2-là, je vais décomposer encore un petit peu plus mes idées pour être encore plus précise, puis ça va être des H3. Il va y avoir des sous-sous-titres à mes H2 et finalement mon H1 qui est le titre, donc on en a juste un H1.
Ça, c'est pas juste pour un article de blog, là, c'est que dans le fond, pour toute page de ton site, tu structures dans cette forme-là.
Oui, absolument. C'est sûr qu'un article de blog, quand on a une pièce de contenu qui va faire 1000-2000 mots, parce que là, je veux pas faire peur aux gens, mais dans plusieurs sphères d'activité, on est dans ces eaux-là. Hein. Quand j'ai commencé le SEO, on disait 300 mots ou 500 mots par page. Là, on est plus dans 1000-2000 parce que faut apporter de la valeur. Tu sais, en 300 mots, tu dis pas grand-chose. Tu n'apportes pas beaucoup de valeur aux gens. Donc c'est ça. Fait que oui, c'est ça. C'est des plus gros textes. Mais peu importe la longueur du texte, la structure doit toujours être la même, en fait. Google est bien intelligent, mais c'est des robots. Hein? Fait que il a besoin d'une structure, il a besoin de savoir c'est quoi tous les sujets qui vont être traités. C'est quelle forme prend cette pièce de contenu-là, puis à quelle intention de recherche ça répond, surtout.
Cool. Puis dans le fond, à part de structurer le texte, là, j'ai parlé des images. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est toujours des... En fait, comment on fait, finalement?
Bien, totalement, totalement. Puis, tu sais, surtout si vous êtes dans un monde où l'image est très importante, par exemple, dans le e-commerce où les photos produits. Des produits sont tellement importants. Maintenant, on est même dans des vidéos des produits, donc où plusieurs photos, là, tu sais, de tous les côtés, de tout bord, tout côté, la chaussure, on peut quasiment, tu sais, tourner la photo pour tout voir la chaussure d'en dessous, par-dessus. Donc oui, les photos, c'est super important parce que il y a beaucoup de recherches qui se font déjà en partant via la fonction « images » dans Google, mais aussi les images, même si vous ne cherchez pas dans « images », les images ont de l'impact, même dans la recherche traditionnelle dans Google. Donc, si dans notre site, on importe des images, il ne faut pas laisser le nom de l'image, mettons le IMG 8257 de notre photographe, ou encore pire, le Shutterstock, que, t'sais, avec « woman with a black », je sais pas quoi, le, « with a black pencil », tu sais. Genre la description de ce que, quand tu l'as pris sur le site où tu l'as acheté, tu sais. Donc, ou downloader gratuitement, peu importe. Fait que ça, faut changer ça. Faut mettre des mots-clés dans notre sphère d'activité, mais aussi qui vont quand même décrire la photo, parce que un des aspects, c'est qu'on va mettre la photo sur notre site, dans WordPress, par exemple. Ben, on va vouloir être capable de la retrouver parce que dans 5 ans, tu es dans ton site, tu dis « Ah, j'aimerais peut-être ça retrouver. » Puis là, si tu ne l'as pas appelé un terme que tu es capable de, qui a rapport avec ce qu'il y avait sur la photo, fait que ça a comme deux fonctions.
C'est un excellent point.
Excuse-moi, je vais brancher mon ordi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne voulait pas brancher tantôt. Excuse-moi. OK, c'est puis, correct.
Tu sais, on n'a pas abordé là, la... d'entrée de jeu, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un site web se classe sur la première page ou pas? C'est quoi les déterminants de la stratégie SEO? C'est quoi les actions qui sont mises?
En fait, c'est qu'il y a plus de 200 critères. Donc, c'est...
Ah, OK. Juste ça.
Juste ça. Mais tu sais, un peu comme dans les réseaux sociaux. Mais ouais. Donc, c'est impossible de dire... Il y a plein de choses qui ont de l'impact, mais c'est trois grands... Il y a trois grandes familles. Il y a le contenu sémantique, donc tout ce qu'on parle depuis tantôt à peu près, là, les textes, la recherche de mots-clés et tout ça. Ensuite, il y a tout le volet technique. Donc, on a parlé un peu des images, ça rentre dans le volet technique. Il y a la vitesse de chargement du site. Il y a tout ce qui est méta-titre, méta-description, toutes les balises. Il y a aussi comment le site, quand je dis la vitesse de chargement du site aussi, c'est lié à ce qu'on a comme plateforme. Il y a des plateformes qui sont plus performantes que d'autres. Il y a des hébergeurs qui sont plus performants que d'autres. Et le troisième pilier, c'est le backlinking. Donc, c'est d'aller chercher des liens de d'autres sites qui vont pointer vers notre site à nous. Ça envoie un signal à Google que notre site est pertinent et qu'il fait partie d'un écosystème, parce que s'il y a plusieurs autres sites de qualité qui pointent vers mon site à moi, donc par exemple, toi, Mélanie, si tu dis à un moment donné, tu veux écrire quelque chose sur ton blog ou peu importe, ou même, en fait, quand tu vas mettre l'épisode de podcast, ça en est une pièce de contenu, si tu fais un lien vers moi, vers mon site à moi, tu es en train de me faire un backlink. Et moi, si je dis à un moment donné, je dis « Hey, j'ai participé cette année à 3 podcasts, je suis tellement contente, Mélanie, Sophie, Chloé », puis là, je mets les 3 liens, toi, ça te fait un backlink aussi. Donc ça envoie un signal, puis en plus, on est dans la même sphère d'activité. Donc c'est un signal encore plus fort à Google. Parce que c'est sûr que si mon fleuriste me fait un lien, Google va peut-être trouver ça cute, mais ça va pas faire grand-chose. On n'est pas du tout dans la même sphère d'activité. Fait que ça apporte pas de la valeur à l'internaute. Mais, tu sais, moi, j'avais fait une étude de cas sur mon site du SEO qu'on avait fait pour l'agence Antilope. Et eux, ils font de la publicité Facebook. Donc, moi, j'en fais pas. Ouais. Imbriqué dans la création de contenu, c'est comme ce que tu fais aussi. Donc, c'est super pertinent comme type de lien. Donc voilà, j'ai bien hâte d'avoir un lien sur ton site.
Ben oui, ça s'en vient. De toute façon, si le monde écoute, il y en a déjà un.
Oui, c'est ça.
Puis, dans le fond, te parler de la plateforme, je sais que WordPress, c'est ta plateforme chouchou. Mm-hmm. C'est la plateforme aussi que j'utilise depuis le début. Ça a été ardu, by the way, là, d'apprendre. Il y a eu une courbe d'apprentissage.
C'est ça, il y a une courbe.
Mais là, je corrige.
Ouais, la courbe, ça dépend ce que tu veux faire avec ton site, tu sais. Ça dépend, mais ouais, la courbe est présente. WordPress est reconnu pour être une excellente plateforme pour le SEO. Donc, ils ont toujours travaillé fort à ce que ce soit le moins lourd possible, que ce soit vraiment, tu sais, bien indexable par Google. Mais les autres plateformes commencent à être très bonnes. Shopify, Excel dans la boutique en ligne, mais même, tu sais, Wix, Squarespace et autres, que, je ne recommande pas nécessairement, mais si les gens ont un site sur ça, je leur dis pas « change de plateforme », pas du tout.
Mais dans le temps, on disait « Wix, oublie le SEO ».
C'est vraiment, c'est moins pire, vraiment moins pire.
Okay.
Par contre, moi, c'est ce que j'ai entendu, parce que je l'utilise pas. Wix. Mais ce que j'entends, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix à Wix de se... Ouais. Tu sais, à un moment donné, il fallait qu'ils rattrapent un peu l'arriérage qu'il y avait. Mais jusqu'à quel point, tu sais, je ne pourrais pas dire. Mais... Ouais. Moi, j'ai plein d'autres points aussi qui font que je n'utiliserai pas Wix. Là. C'est pas juste le SEO. Mais tu sais, pour ceux qui ont un site Wix puis qui fonctionne, gardez-le. Tu sais, if it ain't broke, don't fix it. Là. Sauf que la journée que tu vas avoir besoin peut-être de changer ou que tu dis je veux une refonte de mon site, j'aime plus mon design, tu repars à zéro, je repars à zéro, ben là, peut-être que changer pour WordPress, ça serait une bonne chose.
C'est ça, parce qu'il y en existe plusieurs. Il y a Squarespace aussi qui est de plus en plus utilisé. Il y a d'autres. Mais j'imagine que dans toutes ces plateforme-là, il y a possibilité de travailler son SEO de la même façon que sur WordPress.
Oui. Oui, mais WordPress vraiment rend la tâche beaucoup plus facile et a été vraiment pensé parce que WordPress, à la base, ça a été créé pour être un blog, en fait. Donc, ça a vraiment été bâti pour que les gens trouvent des informations pertinentes parce qu'on le sait que le blog sert à ça. Puis que ce soit un blog, que ce soit des podcasts, je parle de la même chose, la création de contenu de manière récurrente. Là. Donc, ça a été créé pour ça. La plateforme existe pour cet objectif-là de répondre aux intentions des gens qui cherchent des choses dans différents sujets. Donc c'est sûr que c'est la plateforme que je recommande, oui.
Puis est-ce que par rapport à WordPress, est-ce que moi, la seule extension que je connais, que j'utilise, qui a un lien avec le SEO, c'est Yoast?
Oui.
C'est ça?
Oui.
Est-ce que tu as d'autres recommandations? Est-ce que tu as d'autres choses que tu suggères à ce moment-là?
Il y a les deux plugins, les deux extensions les plus populaires, comme tu le dis, c'est Yoast SEO. Sinon, l'autre, c'est RankMath. C'est assez similaire. RankMath a quand même pris beaucoup d'ampleur dans les peut-être 2-3 dernières années.
Okay.
Donc, c'est une extension qui est intéressante. On l'a analysée, puis dans certains cas, on va l'utiliser. Là, c'est un peu plus technique, mais quand on a à travailler plus en profondeur les données structurées, là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais RankMath, c'est ça. RankMath est vraiment bien fait pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on installe Yoast SEO, juste l'installer va venir faire quelque chose sur ton SEO. C'est pas magique, mais ça va venir générer un sitemap, donc une map de ton site que tu vas pouvoir ensuite soumettre à Google via ta Google Search Console. Donc, juste ça, c'est un bon pas. C'est une première étape. Ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va faciliter la vie aux gens pour venir rédiger leur méta-titre, méta-description. Donc, ce qu'on voit dans Google, hein, donc le titre qui est cliquable dans Google, puis l'espèce de petit 160 caractères en dessous, là, c'est juste ça qu'on voit dans Google qui nous permet de dire je vais cliquer ou je ne vais pas cliquer.
C'est vrai.
Ça se met dans Yoast. Donc, c'est la base, je vous dirais, là, les gens qui veulent commencer, parce que sinon, Google va choisir ce qu'il veut montrer comme méta-titre, méta-description, puis c'est peut-être pas nécessairement ce que vous voulez. Il y a pas nécessairement un appel à l'action, c'est pas nécessairement là, t'sais, pertinent s'il prend la première ligne, ou genre la première ligne, c'est la date du jour, là, t'sais. Ça peut arriver, c'est pas super pertinent là, de voir ça.
Pas t'sais. Vendeur, mettons.
Non, c'est ça, exactement. donc voilà, oui, fait que des extensions, mais c'est ça, comme je dis, il y en a d'autres, il y en a aussi dans Shopify, mais t'sais, je m'y connais pas assez pour aller en profondeur là-dedans, mais sur les autres plateformes, là, je veux dire, mais oui, toutes les plateformes ont développé quelque chose pour ça.
Ouais. C'est ça, c'est pas juste de l'installer, mais c'est d'aller mettre les informations. Puis ce que j'aime de Yoast, c'est que, tu sais, il va te donner comme des indications sur quoi faire.
Oui.
Fait que c'est peut-être pas comme.
C'est pas parfait, mais c'est une bonne base. Tu sais, quand quelqu'un a commencé à fouiller puis à travailler son SEO à partir de Yoast, on parle le même langage quand ils viennent nous voir. Parce que, tu sais, bon, la personne va nous parler de lisibilité, va nous parler aussi du nombre de mots. Hein, on le voit, ça le dit, il y a combien de mots dans la page. Est-ce qu'il y a des liens entrants, des liens sortants, donc des backlinks, mais aussi des liens du maillage interne, donc des liens avec d'autres pièces de contenu à l'intérieur du site. Donc, oui. Par contre, Yoast est très... ça fonctionne par des petites pastilles, tu sais, vertes, jaunes et rouges. Et souvent, tu auras tout fait ce qu'il fallait, puis la pastille, elle reste rouge ou elle reste jaune. Puis je dis aux gens, tu sais, si tu as fait ce que tu avais à faire, préoccupe-toi pas de la couleur de la pastille, là. Faut pas virer fou puis vouloir avoir juste du vert puis se mettre à changer plein d'affaires qui font pas de sens juste pour avoir des petites pastilles vertes, ça a pas de sens.
Mais ça fait arbitraire des fois.
Oui, c'est ça. Et des fois, tu sais, on arrive sur des pages, des sites, tout a été est correct puis la pastille est encore jaune. C'est rare qu'elle va rester rouge, là, mais tu sais, si elle est jaune, tu te gardes, tout est beau. Fais-toi en pas avec ça. Mais ça donne des bonnes indications quand même. Et quand les gens arrivent, comme je dis, avec cette base-là, ben, parce que, ben, veux pas, s'il y a des termes dans Yoast que tu comprends pas, tu les googles, tu vas sur Google, tu sais, tu fais un petit peu tes devoirs avant de te dire, OK, bon, j'ai peut-être atteint ma limite de ce que je suis capable de faire moi-même en SEO. Parce qu'on est quand même capable d'en faire beaucoup par soi-même, tu sais, quand on
sait. Ben, c'est ça ma question pour toi. Je me disais, à quel moment, pour toi, tu considères qu'un entrepreneur devrait se tourner vers un expert, une experte comme toi, ou se débrouiller, parce que tu t'offres aussi de la formation. Ouais. Fait que, tu sais, j'imagine que tu crois en l'autonomisation
totalement. Des gens. Ben, c'est toujours ça que je prône, en fait. Ça va être... En fait, pas nécessairement de tout faire par soi-même, mais de comprendre. Puis c'est pour ça qu'on éduque beaucoup, nous, chez PF Communication, nos clients, à comprendre ce qui a été fait, puis qu'est-ce qu'eux vont pouvoir faire dans l'avenir, parce qu'on fera pas leur SEO pendant 10 ans. On va le faire pendant quelques mois, mais tu sais, à un moment donné, après un an, après deux ans, la personne part de son côté, puis comment qu'elle peut réussir à rester sur la lancée sur laquelle on l'a amenée. Donc oui, totalement, on fait tout, on peut le faire pour vous, on peut vous accompagner ou on peut vous former, puis vous le faites totalement à 100% de manière autonome. Et comme je dis, ben, dans tous les cas, c'est que l'expert de contenu, c'est le client. Fait que nous, on ne pourra jamais le remplacer, le client. Puis on ne pourra jamais être dans sa tête aussi, tu sais, pour développer des partenariats. Tu sais, ce qu'on est en train de faire, là, on enregistre un podcast, tu es venu sur une de mes formations, j'ai parlé de toi dans mon infolette, je vais en parler dans mon site quand je vais mettre l'enregistrement de la formation que tu es venu faire de chez nous. Bien ça, c'est le genre d'affaires qui va avoir un impact sur le SEO, comme on a dit tantôt, parce qu'on va se faire des backlinks, on va parler de l'une de l'autre sur notre plateforme. Mais moi, comme agence SEO, je peux pas penser, je peux pas être dans la tête de l'entrepreneur et dire, bon, tu sais, je peux lui suggérer, essaye d'aller voir dans ton réseau d'autres sites, est-ce que tu peux être référencé sur ces sites-là? Mais je peux pas le faire à sa place, tu sais, ça, c'est pas le rôle d'une agence qui fait du SEO. Donc, et comme je le dis, l'entrepreneur va... Souvent, c'est l'entrepreneur lui-même hein, qui ajoute son contenu, surtout quand on est dans le domaine, tu sais, quand on est adjointe virtuelle, quand on est dans la création de contenu, solopreneur, infopreneur, ben, tu sais, ça fait partie de notre quotidien de mettre à jour notre site, on est comme pas mal obligé d'être capable de le faire par nous-mêmes, veux pas, là. Tu peux pas toujours appeler ton agence et dire « peux-tu changer une virgule sur mon site web? » Mais de savoir au moins comment le faire et savoir que les actions qu'on va faire ne vont pas faire pogner le feu à l'intérieur du site puis tout péter, tu sais.
Ouais, ça, c'est l'angoisse.
J'ai une cliente, à un moment donné, elle est venue nous voir à capoter parce qu'elle a dit « Ah, j'ai fait le ménage dans mon site, fait que j'ai supprimé plein de vieilles photos, tu sais. » Puis là, j'étais comme « Pourquoi t'as fait ça? » Ben, je voulais faire de la place, mais OK, il n'y avait plus de place, tu sais, comme l'hébergeur aurait pu mettre un peu plus de place sur ton site. Tu sais, c'était pas... Puis, tu sais, Crème a dû passer une bonne grosse soirée à déliter des photos, mais elle a créé plein de liens brisés, tu sais. Donc,
mais oui, c'est ça.
Sans s'en rendre compte. Donc, c'est d'avoir un peu des notions de base, parce que il y a pas une action, en fait, puis je veux pas traumatiser personne, mais il y a pas une action qui a pas de répercussion sur un site. Tout ce que tu vas faire sur ton site va avoir une répercussion. La répercussion de base, c'est de si tu changes un bouton, quand tu arrives sur le site, le bouton il a changé. Fine, c'est exactement ce que je voulais. Mais il y a plein. Tu sais, mettre à jour une extension peut avoir des répercussions. Peut briser quelque chose sur ton site que tu t'en rends pas compte tout de suite.
Ah, oh, je sais, par moi en
bon, hein, je veux pas. Bon, je veux pas te ramener dans des mauvaises souffrances, là.
C'est ça.
mais c'est ça. Donc, tout ce qu'on fait. Et donc, c'est pour ça, moi, je trouve ça tellement important d'éduquer les gens. Puis, tu sais, tu l'as dit, j'enseigne aussi. Fait que. Ça fait partie de mon quotidien d'expliquer aux gens comment ça fonctionne puis comment ils peuvent être un acteur important dans leur stratégie de référencement naturel. Donc, pour revenir à ta question, oui, les gens peuvent en faire une très, très grosse partie par eux-mêmes. Surtout les contenus, rédiger les textes.
Ouais.
On va beaucoup faire ça. Le client rédige son texte puis nous, on l'analyse après puis on dit « OK, regarde, t'as sur-optimisé, t'as trop utilisé ton mot-clé. » mets un petit peu moins, hein, enlève une bûche, ou au contraire, t'en as pas mis assez, ou ah, ta structure de H1, H2, H3, elle marche pas, t'as pas fait de maillage interne, y a pas d'image dans ton article, c'est que du texte. Aère-moi ça, mets des images, mets de la vidéo, mets des infographies, mets des choses qui vont rendre aussi le UX, l'expérience de l'utilisateur plus intéressante, parce que si les gens arrivent sur le site puis ils s'en vont tout de suite puis ils font rien, ça envoie un signal à Google que il est pas pertinent ce contenu là.
Ouais.
Donc
là c'est intéressant, tu disais peut-être de trop mettre sans mots clés, ça peut être
oui suroptimiser. Oui, tout à fait. Problème. Ça peut être un problème. On a des outils, nous on a des licences là, sur des outils très performants qu'on passe le texte, ça s'appelle notamment yourtext.guru, un des outils qu'on utilise et qui est un outil payant, là. Et ça va nous le dire justement le pourcentage. Puis surtout, ça va analyser les 10 premiers résultats sur lesquels que toi, tu veux te positionner. En fait, tu veux battre un de ces 10 premiers résultats-là dans la première page de Google. Eux, c'est quoi leur optimisation? Est-ce qu'ils sont aussi suroptimisés comme toi ou sous-optimisés? Puis c'est quoi leur degré de dangerosité SEO? Dans le sens, si c'est suroptimisé... Bon. Oui, non, je veux pas te faire peur. Oui, mais
bien, oui.
C'est parce que, tu sais, si c'est suroptimisé puis que t'en as trop fait, tu sais, c'est comme, tu sais, beurré trop épais, là, tu sais, bon, à un moment donné, ça lève le cœur, ben c'est ça. Si c'est trop, ça marchera pas plus. Donc, Google va le voir, va te voir venir, là, à 10 000 à la ronde, puis va dire, non, ça marche pas, là, ce site-là, on le référence, on va pas l'indexer, on va pas le mettre sur la première page. Donc, c'est ça, oui, il y a des dangers de suroptimisation.
Bien, ça m'amène à ma prochaine question pour toi. Mettons là, qu'on parle, c'est quoi les pires erreurs qu'on peut faire sur son site pour complètement nuire à son SEO? Dans l'affaire là, que tu vois, que tu fais comme « Ih, non, faut
pas. » OK, bien, il y a plusieurs choses. Bien, de un, le contenu dupliqué. J'en vois de moins en moins, mais ça existe encore des gens qui reprennent leur contenu tel quel sur des pages. Ça, il faut faire attention à ça. Ensuite, une autre erreur que je vois souvent, c'est des images qui sont trop lourdes. Donc, la personne vient importer l'image que son... Elle a changé le nom, là, ça, au moins, elle l'a bien fait, mais elle est venue importer l'image à 5 gigs, j'exagère, là, mais tu sais, la grosse image, là, mettons 2 MB, là, elle est venue importer ça dans son site. 2 MB, c'est ben trop lourd, genre en 300 dpi, tu pourrais l'imprimer, faire un gros poster avec ça. T'as pas besoin de ça. Faut que ce soit en 72 dpi, la résolution web, puis beaucoup plus léger.
Donc, comment on fait ça rapidement, facilement, s'assurer là, que... Je sais qu'il existe des logiciels pour ça, que tu passes l'image, puis ça compresse.
Oui, ben,
c'est quoi ton préféré?
Ben, y a Photoshop qui fait ça. Il y a Canva aussi, on peut modifier. Il y avait un autre outil en ligne, Compressor PNG ou JPEG, ça dépend, ou même un PDF, on peut le compresser. Donc, on le rentre dans l'outil, dans le site, puis il va venir le compresser. Mais si à la base, l'image pourrait être rapetissée, parce que le poids et la taille, c'est pas la même chose. Là. Il y a deux notions qui affectent le poids de l'image.
Parce que je pense pas qu'on choisit les DPI sur Canva.
Je crois qu'on peut le mettre en peut-être. Moi, je le fais toujours avec Photoshop. J'utilise Photoshop depuis des années, là, mais c'est pas tout le monde qui a ça. C'est quand même un outil. Mais il y a... ça coûte cher. Oui. Il y a un outil en ligne. Comment ça s'appelle?
Faudrait que je retrouve le nom. Avec un panda. Un site avec un panda, genre, qui serait...
Ça se peut. Il y a aussi compressor.io. Sinon, il y a Imagify, qui est... parce que ce qui arrive aussi, c'est que tu peux compresser des images qui sont déjà sur le site. Parce que si tu te rends compte, 2 ans plus tard, tu te dis « Colin, il est-tu trop tard? » Non, il n'est pas trop tard. Tu peux utiliser des extensions qui vont venir compresser tes images.
C'est déjà bon, ça.
En place. Oui, exactement.
J'aime ça.
Mais sinon, après, tu mets en place les bonnes pratiques quand tu vas pour le futur. Mais le passé, on peut quand même... on a de l'impact. Donc ça, c'est quand même une grosse erreur que je vois au niveau du poids des images. Et aussi... Bien, je l'ai dit tantôt, la longueur des textes. Les gens, souvent, vont sous-estimer ce que ça prend. Un texte de 300 mots, 400 mots, 500 mots, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il y en a qui disent « Ouais, mais maintenant, j'ai plus rien à dire. » Bien, au contraire, chaque pièce de contenu devrait traiter d'un seul sujet, mais en profondeur ou à peu près, là, on s'entend. Donc, c'est pas d'écrire une page... Tu sais, ta page service... C'est pas une seule page service avec tous tes services. Non, il faut que tu fasses une page pour chacun des services où là, tu décris en profondeur ton service. Puis je suis pas mal sûre que tu es capable d'aller jusqu'à 1000 mots, 2000 mots pour expliquer ce que tu fais dans la vie. T'sais. En théorie, tu es supposé être un expert de ton domaine. T'sais. Et si tu détestes écrire, ben va chercher des rédacteurs, des rédactrices pour toi. Mais c'est ça, la quantité de mots souvent est...
Et tu me donnes le goût d'aller voir parce que je suis sûre que j'ai pas 2000 mots.
Ben écoute, sur mes c'est, pages service. Ça dépend des. Ben, c'est pas obligé d'être 2000, on s'entend. Puis ça dépend de la sphère d'activité. Il faut que tu ailles voir tes compétiteurs, ils ont à peu près combien de mots pour toi en faire à peu près autant, sinon plus. Mais toujours en apportant de la valeur et en étant pertinent et en donnant, en étant généreux en
c'est
contenu.
C'est ça, pas du remplissage. Non. Parce que là, j'entends déjà du monde dire ben, gars, je vais utiliser ChatGPT, ben, puis je vais.
C'est ça.
On peut, mais il y a beaucoup de. ChatGPT, des fois, il fait beaucoup des textes de remplissage.
Ah, c'est... Ben oui, t'sais. Ben oui, il va répéter il bon la même affaire 14 fois dans un texte. Ouais. Donc, oui, il faut faire attention à ça. ChatGPT, j'adore cet outil-là. Je m'en sers pas tous les jours, mais presque. Mais c'est ça, il faut quand même garder l'être humain. Tu sais, quand ils disent « Est-ce que ChatGPT va nous remplacer? » Pas demain matin, là, tu sais. Pas demain matin. Puis, tu sais, comme... Tu sais, moi, ça me fait tout le temps penser quand il y a eu les caisses automatiques dans les épiceries. À chaque fois que j'utilise une caisse automatique, j'ai besoin de la caissière pour qu'elle vienne m'aider à me déboguer quelque chose. C'est il y a quoi, de quoi qu'il n'y a pas le bon prix. Il y a un scan qui ne marche pas. J'ai tout fait de quoi. Enfant. Mon enfant s'est assis sur le truc. Puis là, ça a tout débalancé. Il a enlevé des affaires. Fait que là, il faut que j'appelle la caissière pour qu'elle vienne nous aider. Dans tous les cas, l'être humain reste pertinent. Pas demain la veille, je pense que ça va disparaître. Les rédacteurs, tu sais, l'autre fois, j'entendais, je pense que c'était à la radio, ils disaient, tu sais, qu'est-ce que ChatGPT, quel job ça va enlever, puis les rédacteurs web, ça facilite votre travail, je pense, au contraire, là, de savoir bien l'utiliser, mais tu sais, l'esprit critique derrière, ça prend un humain, là.
Fait qu'en termes d'erreurs, fait qu'on a les images qui sont trop lourdes, t'as parlé aussi tantôt de la structure des textes, t'sais, d'avoir des balises, t'sais, les erreurs monumentales, mettons.
Ben, t'sais, d'avoir aucun... T'sais, d'arriver sur... T'sais, si j'arrive sur une page puis que je suis pas capable en 4-5 minutes de déterminer c'était quoi le mot-clé sur lequel la personne a tenté de se positionner, c'est qu'il y a un problème. Parce que si moi, je suis pas capable, Google est pas capable, t'sais. Si moi, je lis le texte, puis je regarde H1, H2, OK, toute la structure est belle, mais je suis comme, sur quoi tu as voulu te positionner? Parce que là, tu parles de, je dis n'importe quoi, là, si, mettons, t'es ostéopathe, puis tu t'occupes des bébés, des femmes enceintes, puis des sportifs, puis que là, dans ta page, tu me parles de tous ces publics-là. Là je suis comme, c'est quoi le mot-clé? Ben, si tu dis, ben, c'était ostéopathie pour nouveau-né. OK, ben parle pas des femmes enceintes, parle pas des sportifs. Ça marche pas, là, tu sèmes la confusion. Donc, donc c'est ça, d'être très précis. Une page devrait, en théorie, tenter de se positionner sur un seul mot-clé. Évidemment, ça va peut-être être plusieurs, puis on le souhaite, mais il faut le réfléchir pour que ça se positionne sur un seul mot-clé ou une phrase qu'on appelle une longue traîne qui est justement...
plus précis.
C'est ça, exactement. Là, donc, une question souvent qu'on va poser à Google.
C'est ça. Comment faire de la broderie avec de la laine, tu sais?
Genre.
Tisser.
Exactement, exactement. Ouais. Donc, tu sais, ça sera pas juste le mot broderie ou le mot laine qui est peut-être plus difficile à se positionner. Ça va peut-être être des gros de votre industrie. Ça sera les certainement boutiques. Pas... Ouais, c'est ça, des gros fournisseurs ou tout ça. Ça sera certainement pas la petite broderie du coin, mais t'sais, comment t'sais, cours de broderie pour les débutants, ou t'sais, d'y aller vers des mots qui sont plus précis. Fait que ça c'est une grosse erreur, puis ça c'est plate, parce que quand t'arrives sur un site comme ça, ben c'est que la seule solution c'est de recommencer tous les textes, t'sais. Puis ça fait mal, parce que probablement qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été mis dans les textes, tu sais. C'est pas facile, là, écrire des textes pour un site web. Donc ouais, voilà.
Je pense que c'est ce qui peut amener aussi, dans beaucoup de cas, des situations que j'ai vues, il y a comme, je vais pas dire 50% et plus, mais c'est déjà arrivé que je le vois souvent, que le trafic du site web total est attribuable à un article en particulier qui performe, qui score de feu de Dieu.
Ben oui, ça arrive, tant mieux. Si t'en as un, tu y touches pas, parce que quand ça va bien, tu y touches pas. Mais c'est plutôt rare, tu sais.
Ah ouais?
Ben, je dis ça. ça va être l'intention de recherche derrière. Tu sais, est-ce que c'est...
Ouais.
Mais non, tu sais, non, en fait, comme tu dis, c'est pas si rare. On va en avoir plusieurs, souvent un top 3, là, tu sais, des trois...
Ouais, trois articles, qui se démarquent vraiment.
Puis ça, ben, tu sais, faut apprendre de ça. Faut voir, OK, ces articles-là qui se démarquent à ce point-là, puis ça, comment on le fait pour le savoir, c'est avec Google Analytics, Google Search Console.
Mm-hmm.
Ben, allez voir, c'est quoi ces articles-là qui performent? Est-ce que c'est des tutoriels? Est-ce que c'est des articles, genre, le top 5 des erreurs à ne pas faire dans... tel sujet? Est-ce que c'est des articles de blog plus type storytelling? Tu sais, qu'est-ce que les gens aiment? Moi, je me suis rendu compte que ce que les gens aiment, c'est des étapes par étape sur mon site à moi, step by step, genre comment faire telle affaire, de type tutoriel. Bon, moi, c'est ce que j'aime le moins écrire dans la vie.
Ouais.
Moi, c'est pas, quand je fais ça, c'est parce que je fais mon écran puis je te montre comment faire.
Ouais.
Ça me plaît, mais de l'écrire, ça me tape ses nerfs, des captures d'écran pis tout. Fait que là, bon, c'est ça. Je me trouve des amis qui m'aident du monde dans mon équipe, là, qui m'aident à écrire ce type d'article-là. Mais je varie, tu sais, je fais pas juste écrire ça, mais je sais que ça, c'est quelque chose qui plaît. Donc.
Oui. C'est ce qu'on cherche, tu sais, souvent, quand tu veux, tu sais, par exemple, par rapport à ta formation aussi pour créer son site web avec WordPress et Divi. T'sais, quand tu apprends à le faire, je veux dire, je te confirme, là, tu googles comment faire tel truc tu veux des tutoriels.
Absolument, ben oui, absolument. C'est sûr, c'est ce que les gens vont chercher.
Puis, on a parlé brièvement là, au début, dans l'intro, de l'importance aussi du SEO, de plus en plus, même sur les réseaux sociaux, de ton expérience, c'est quoi qui est le plus important ou c'est quoi les bonnes pratiques selon toi?
Ça va être encore de rechercher les mots-clés. Vraiment. Tu sais, je suis pas experte réseaux sociaux, mais ce que j'entends beaucoup, tu sais, avec TikTok notamment, c'est que TikTok est devenu un moteur de recherche aussi pour les plus jeunes, mais quoi qu'il y ait tous les âges qui sont là. Donc, les gens vont chercher, vont poser une question comme ils le feraient dans Google. Donc, c'est encore une fois, ouvre le réseau sur lequel tu veux te positionner, puis tape les différents mots-clés dans ton industrie, puis regarde qu'est-ce qui sort.
Puis les mots-clés, après, on les met dans le texte. Je sais que sur Instagram, il y a aussi une balise qu'on peut aller venir nommer son image.
Pour nommer son image, oui, puis à l'intérieur de ton texte, absolument. C'est ça. Puis aussi, on parle beaucoup des sous-titres. Donc, les sous-titres sur les vidéos, c'est dans les stories aussi. Donc oui, ça a de l'impact, ouais.
Moi, j'ai reçu Geneviève Thibault, tu sais, Social Mini sur TikTok. Oui. Puis elle me disait justement que, tu sais, là, il y a beaucoup d'applications qu'on aime. Je pense que tu l'utilises aussi, tu sais, Captions, qui est comme formidable. Oui. Sauf qu'en mettant Captions, tu sais, en utilisant Captions pour faire tes sous-titres puis en important ensuite la vidéo... Oui. Tu te coupes du référencement des sous-titres
de la plateforme. Exactement. C'est triste. C'est ça. Puis oui, absolument. Fait qu'il y a, on peut utiliser sinon les sous-titres directs d'Instagram. Moi, je les aime pas trop, là, les sous-titres directs d'Instagram. Non. Mais bon, ouais, en effet.
Mais il y a une entreprise, là, voyons, tu sais, sous-titreur.com,
le sous-titreur, David Grégoire. Oui.
Je vais mettre les liens, là, tout ce qu'on a parlé, je vais mettre les liens, mais parce qu'on a dit beaucoup d'affaires, mais je sais qu'on peut faire ça, on peut leur envoyer une de nos vidéos, puis ils vont nous créer le fichier, c'est-tu RTT, le fichier de titre, puis je l'ai déjà testé pour un client, c'était une vidéo sur LinkedIn, puis on avait vraiment uploadé le fichier directement, puis ça, ben c'est, je pense que c'est encore mieux parce qu'on lui indique là, c'est quoi le sujet de la vidéo.
C'est ça, exactement.
Ça peut être des bonnes pratiques.
Tout cool. À fait.
Ouais. Puis en terminant, ce que j'ai le goût de te demander, c'est est-ce que tu as un outil de ton cru, en fait, à nous partager par rapport au SEO?
Oui.
Puis je sais que là, j'ai vu passer un webinaire.
Ben, j'ai une masterclass que j'ai préenregistrée, que j'offre gratuitement, qui est une masterclass d'une trentaine de minutes. Donc, je t'enverrai le lien si les gens veulent la recevoir totalement gratuitement. Évidemment, après, vous allez recevoir mon infolettre, puis vous allez apprendre à me connaître et tout, mais vous êtes absolument obligé de rien acheter. C'est une... c'est exactement ce dont j'ai parlé aujourd'hui, mais là, en partage d'écran, et je montre comment, justement, ouvrir Google, la fonction d'autocomplétion, les questions fréquemment posées. J'ai parlé de l'outil Mangles, tantôt, j'en parle. Et je le montre, en fait. Donc, c'est très visuel. Fait que, oui, c'est cette masterclass-là que j'offre, là, présentement.
Oui, je pense que ça ferait une belle continuité avec l'épisode d'aujourd'hui. Absolument. Fait que je vais aller t'écouter assurément. Là, ça fait partie de ce sur quoi je veux travailler là, dans les prochaines semaines. Fait que
parfait.
Tu vas être dans mon ordi.
C'est correct. Puis tu connais tu sais comment me rejoindre s'il y a quelque chose.
Exact. Hey Patricia, un gros merci d'être venue jaser. SEO, c'est super.
Oui, merci beaucoup.
Vraiment contente. J'espère que les gens vont avoir apprécié puis vont avoir eu aussi le goût de créer du contenu sur leur site web pour être en top de liste Google. Hein, c'est tout ce qu'on veut.
Ben oui, c'est clair.
Fait qu'un gros merci.
Ça fait plaisir. Bye.
Bye.
Alors, j'espère que cette entrevue t'a plu. J'espère que t'as aimé en apprendre davantage sur le SEO et que ça a ouvert tes horizons par rapport à ce qu'il fallait faire comme action pour permettre à ce que tes contenus, à ce que ton site web soit davantage vu et retrouvé par les utilisateurs, par une audience qui est davantage qualifiée et qui s'intéresse au sujet que tu abordes. Moi, ça m'a donné le goût aussi de me replonger davantage sur le SEO de mon site web que j'ai changé en fait la majorité, en fait pratiquement l'entièreté de mes textes en septembre dernier. Et depuis, je n'ai pas misé davantage sur le SEO. Donc, ça m'a comme redonné le petit coup de pouce, en fait, le petit coup de pied pour me replonger là-dedans. Et j'espère que ça t'a inspiré également à travailler à ce que tes contenus soient un petit peu plus mis de l'avant par les onglets de recherche. C'est vraiment quelque chose de puissant. Puis, on n'a pas à travailler vraiment plus fort pour que ça soit davantage vu. Alors, je t'invite à suivre Patricia, à aller voir son webinaire gratuit, à t'informer parce que je pense qu'elle a des beaux outils pour toi à te proposer et c'est vraiment une experte dans ce domaine-là. Donc, je t'invite vraiment à consulter ses réseaux sociaux. D'ailleurs, tous les liens sont toujours dans les notes de l'épisode. Et si tu aimerais en apprendre davantage sur les petits projets qui s'en viennent et dont je vais te parler dans l'épisode prochain, si tu veux en apprendre davantage en exclusivité, ben je t'invite à t'abonner à mon infolettre. Je te mettrai également le lien pour t'y inscrire parce que j'ai envie de récompenser les personnes qui me suivent sur le podcast et dans l'infolettre parce que je suis pleine de gratitude pour vous qui êtes à l'écoute chaque semaine. Ça me fait énormément chaud au cœur de savoir que vous êtes au rendez-vous. Donc, si vous voulez être aux premières loges, bien, ça se passe dans l'infolettre pardon, et sur le podcast. Donc, merci vraiment d'être là, puis je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!